Pour moi, quand même, le jardin, c'est vraiment soit un lieu de détente, soit un potager, soit on est plus... un jardin, c'est un lieu qui est habité par l'homme, qui est vécu par l'homme. On n'est pas dans un milieu naturel libre ou sauvage.
C'est un lieu pour rêver, pour se poser et rêver.
Un jardin, qu'est-ce que c'est pour moi ? Bah, c'est compliqué comme question, parce que c'est vrai que moi je travaille sur des jardins partagés, donc c'est-à-dire que c'est des endroits où on se fait plaisir personnellement, et en même temps on se partage l'espace, c'est-à-dire que notre plaisir est partagé, c'est-à-dire que partager ça veut pas dire non plus simplement mettre en commun, c'est aussi à certains moments avoir chacun sa part de plaisir aussi, c'est aussi ça partager. Et c'est vrai que quand on jardine, on a quand même un plaisir assez intime et assez individuel. Même si on est dans un espace un peu clos au milieu de la ville ou à côté de sa maison, un jardin, c'est un petit moment pour soi, en fait.
Alors, je vais me replonger dans l'enfance. Pour moi, le jardin, c'est un espace de liberté. Dans l'emploi du temps de la semaine, on va dire. Un espace de liberté où effectivement, généralement, les adultes laissent les enfants s'exprimer un peu plus.
Mon jardin rêvé, c'est de pouvoir être accueilli dans le jardin des autres pour poser ici mes abeilles, pour faire une fête ailleurs ou aider à quelque chose là. Et finalement, je préfère ne pas avoir de jardin et être tout le temps chez les autres et participer.
Qu'est-ce que c'est pour moi un jardin ? C'est essentiellement un lieu de partage, je pense. C'est un lieu où on peut se retrouver, où partager des émotions. Pourquoi j'ai ouvert mon jardin comme ça à cette association ? C'est justement pour que ce jardin, qui est quand même très vaste, qui fait plus de 8000 m², profite à d'autres personnes qu'à moi, qui soient ouverts justement sur le quartier. Voilà, parce que je pense qu'avoir une telle surface ici à Marseille, c'est aussi un privilège. Et que ce privilège, il faut peut-être un peu le partager autant que faire se peut.
Dominique et Margaret ont ouvert les portes de leur jardin à Mazargues pour la fête annuelle des passeurs de jardin. Cette association organisait une journée festive d'ateliers-débats pour discuter des questions liées à la biodiversité en ville, aux liens avec les artistes et aussi à tous les enjeux soulevés par les jardins partagés en ville. Par exemple, la question de l'initiative de ces espaces. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'emparer des terrains vagues et autres délaissés ? Le rapport public-privé ou intime à un jardin partagé, c'est à la fois un jardin à soi et un espace de partage. Est-ce qu'il faut fermer, clôturer ces espaces pour assurer leur maintien ? Quel accompagnement dans le long terme ? Comment favoriser la mixité des publics de ces jardins ? En organisant des balades et des rencontres pour s'interroger entre autres sur toutes ces questions, l'objectif des passeurs de jardins, c'est de devenir un relais entre les différents acteurs, qu'ils soient naturalistes, jardiniers, artistes, etc. Alors tout de suite, c'est un membre des passeurs de jardins qui nous emmène faire un petit tour des lieux pendant la fête.
Jean-Christophe Michaud, membre fondateur de l'association Passeurs de Jardin. Et je suis sous-responsable de la buvette, puisque c'est le trésorier qui est responsable de la buvette. Et j'aimerais bien t'emmener là-bas écouter les cris d'animaux. Donc là, on passe devant des gens qui sont assis. Et là, on arrive à une sorte de mixture, tisane, et il y a Coco Malais qui va vous raconter ce qui est en train de se passer puisqu'elle est là depuis le début.
On prépare une petite potion magique contre tout ce qui est petits bobos diverses et variées. C'est en fait une potion cicatrisante
à base de miel, de lavande, de calendula.
Les rouleaux de papier hygiénique, les rouleaux de sopalin, les mouchoirs usagés, Les boîtes à œufs, les tickets de supermarché, quoi encore? Qu'est-ce que j'oublie?
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait?
Ah bah, les épluchures, on met là-dedans, évidemment. Oui, coupé en morceaux. Toujours 30% de matière carbonée, c'est-à-dire de papier ou de carton, en même temps que, que le verre, les épluchures. Oui, bon, avec, moi, je ne mets pas de pommes de terre et tout ce genre de choses.
C'est vrai que les pommes de terre ont du mal.
Là, je ne mets pas.
Les pommes de terre ont du mal à les traiter.
Pas d'agrumes non plus. Mais tout le reste, c'est bon. Et ça sent l'humus quand vous remuez. Ça sent pas du tout la poubelle, ça sent pas du tout une odeur désagréable. Au contraire, ça sent le sous-sol de forêt, quoi. Le sol de forêt, la litière. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et puis, bon, c'est en dessous de l'évier ou à côté.
Lombricompost d'appartement, donc. Hein. Faire son compost en appartement, c'est possible. Et après, on va vous expliquer.
C'est un système qui est lié à une maison. On n'a pas besoin d'avoir de jardin pour utiliser le lombricomposteur. Donc ce système-là va vous permettre de valoriser vos restes, au lieu qu'ils soient enfouis ou incinérés. Vous allez pouvoir l'utiliser. Vous êtes deux dans le foyer. Vous êtes deux. Donc pour deux personnes, on peut préconiser un système pour démarrer un système à trois plateaux. Voilà, donc vous avez remarqué que les vers vont aller se répandre dans le système, se multiplier, être de plus en plus nombreux, et manger tous vos restes pour les transformer en compost. Est-ce que vous avez vu le...
Donc en dernier, c'est ça.
Voilà, là, c'est un petit atelier au microscope. On regarde les plantes au millimètre. Et le mieux, c'est de parler à mademoiselle.
Bonjour mademoiselle. C'est quoi alors cet atelier?
Ici, je crois que c'est un atelier qui s'appelle « Sous la jupe des fleurs ». C'est-à-dire, on va voir les choses cachées des fleurs et des plantes. Donc... tout ce qui est très 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 petit, on va l'agrandir grâce à nos loupes binoculaires et notre microscope et observer que les plantes méditerranéennes se parent de plein d'atouts pour se protéger de la sécheresse, du vent, de l'air salin, etc.
Alors là, je suis avec ma loupe binoculaire qui grossit à peu près une vingtaine de fois. C'est une vieille grand-mère qui date de 1925, que j'ai eu la chance de récupérer à l'université de Provence, à un moment où ils changeaient de matériel, donc pour dire qu'ils les avaient gardés longtemps. Et voilà, si vous voulez jeter un œil, vous pourrez vous-même décrire ce que vous voyez.
Ah, ça y est, donc là ça se précise parce que c'était très flou.
Grâce à ma
là,
petite
ça devient.
Ah oui,
c'est beau.
On va avoir de la lumière.
Donc on voit un pétale en fait, alors, qui est tout irisé quoi. Il y a comme
là,
des
c'est
petites
les pétales irisées, mais sinon il faut voir le.
Et puis on voit des petites graines à un endroit, des petites graines blanches dans des filaments verts.
Voilà. Et pareil, c'est. Ces petites boules blanches, donc ce ne sont pas des graines, mais ce sont les petites boules dans lesquelles se trouve le pollen de la fleur. Dans ces zones méditerranéennes, les plantes ont souvent beaucoup de poils. Ces poils leur servent à faire de l'ombre pour se protéger de la chaleur, ça leur sert à se protéger de la pluie, à éviter que la pluie rentre en contact avec directement avec elles. Et donc, en regardant une petite branche de romarin, par exemple, on va voir qu'elle a une forme particulière adaptée à la sécheresse. Elle a une forme en forme de tuile. Elle a un dessus qui est vert vif, un peu ciré, et un dessous qui est plein de petits poils blancs. Et donc les échanges d'air, le CO2 qu'elle va prendre dans l'air pour fabriquer de l'oxygène, tous ces échanges gazeux se font par ce côté un peu poilu qui évite ce que la plante se dessèche. Alors, ça, c'est un insecte que j'ai attrapé ce matin. Je ne connais pas son nom exactement. C'est un diptère, donc de la famille des mouches ou des moustiques. Il ressemble à un très très gros moustique. Certains appellent ça des cousins. Je ne connais pas son vrai nom scientifique. Mais il a une tête très rigolote. Il a deux gros yeux verts, un long blaze et des petits sourcils poilus. Et on voit là des acariens qui cavalent, des acariens qui cavalent pas, et des collemboles. Voilà des acariens, là, on va voir ça. Une loupe de 1925 vous fait voir des monstres assez extraordinaires. Voilà, il y en a une qui vous montre toutes ses pattes.
Non.
Et là, il y a 35, 40 personnes, je ne sais pas, qui sont en train d'écouter comment les jardins doivent être partagés.
Bon, donc je suis ravie d'accueillir pour ce forum des jardins partagés marseillais Julien Adrault, qui est l'animateur du Jardin des Ors et le coordonnateur du réseau des jardins solidaires de Méditerranée. Camille Levent, qui anime dans le cadre du travail de l'atelier méditerranéen d'environnement un jardin de sensibilisation au jardin partagé à la rue du Baignoire en centre-ville. Alexis Jean de Lamieux.
Quand on dit jardin partagé, la plupart des gens entendent jardin familial, ex-jardin ouvrier. Alors que, si on peut dire, même si la cloison n'est pas étanche, n'est pas vraiment étanche entre les jardins partagés et les jardins familiaux, il y a quand même des objectifs qui sont différents. Le jardin familial a un objectif de production alimentaire et il est en général constitué de parcelles individuelles, alors que le jardin partagé peut être constitué aussi bien de parcelles individuelles.
Jacqueline Gambini, présidente fondatrice des Passeurs de Jardins, anciennement à la direction des espaces verts de la ville de Marseille, en charge des jardins partagés.
Il est créé à l'initiative des habitants, le plus souvent, dans une concertation de tous les instants, faute de quoi il ne peut pas être vraiment réussi. Le jardin, en quelque sorte, pour dire les choses un peu vite, n'est qu'un support. Support de convivialité, support de rencontres, support de rencontres intergénérationnelles, interculturelles, support de liens sociaux, quoi. Il y a des gens qui peuvent être adhérents d'une association ou d'une structure qui gère un jardin partagé et ne pas jardiner. Alors que dans un jardin familial, ça n'est pas possible. Vous jardinez ou vous partez, mais vous jardinez et vous produisez. Donc déjà faire connaître le jardin partagé. Et puis savoir que le jardin partagé n'a pas besoin d'une très grande surface. Il n'a pas besoin d'avoir un sol aussi très fertile. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de jardins partagés qui existent à Paris dans des zones extrêmement urbanisées, il y a des toutes petites surfaces. Je crois que le plus petit doit avoir 100 mètres carrés. Et puis maintenant, il y a des techniques. Enfin, maintenant, on a redécouvert, disons, des techniques où on a créé des techniques comme les cultures en lasagne, par exemple, qui permettent de cultiver dans des endroits où il n'y a pas de sol, sur du béton, sur du rocher, sur des sols extrêmement pauvres et improductifs. Donc, faire comprendre et faire découvrir à la population marseillaise que. Il y a des tas d'endroits en périphérie, bien sûr, mais aussi au centre-ville, où, qui sont des endroits à l'abandon, qui servent de décharge, ou qui sont ce qu'on appelle un peu, de manière un peu péjorative des dents creuses, des espaces en attente de projets, des cours, des terrasses, enfin ce qu'on veut, des toits qui peuvent être transformés en jardins partagés pour peu qu'il y ait un projet qui tienne la route, des gens motivés, des énergies fédérées et que les gens sachent que ça peut exister. Ça peut être sur des terrains privés, mais ça peut être sur des terrains municipaux, ça peut être sur des terrains de bailleurs sociaux, etc. Ma satisfaction, ça aurait été de fin mars que le conseil municipal ait voté la charte des jardins partagés marseillais qui affirme la volonté politique de la ville de Marseille de favoriser le développement de ces jardins sur le territoire de la ville. Pour l'instant, il n'y a pas de protection sur les jardins partagés. C'est-à-dire, et d'ailleurs dans la charte c'est écrit, et c'est clair pour que les personnes qui vont s'engager dans ce type de projet le sachent et ne soient pas prises au dépourvu, il s'agit d'une occupation précaire. C'est-à-dire que, alors que pour les jardins familiaux, il y a une loi qui protège ces jardins et qui oblige les propriétaires lorsque des jardins familiaux sont supprimés à les réinstaller sur une surface équivalente, il n'y a rien de tel pour les jardins partagés.
En son jardin, au fil des saisons, au gré de l'humeur du temps, la sagesse du jardinier est faite de patience. Pour ce qui est des démarches citoyennes de jardins partagés, il est aussi question de patience quand l'appropriation des espaces par les habitants se compte parfois en années. Ces réflexions liées aux jardins en ville et à leurs enjeux, Julien Adrault les partage. Il est animateur de la structure en charge du Jardin des Ors dans le 15e et coordinateur du réseau des jardins solidaires méditerranéens.
C'est vrai que on a une grosse problématique foncière pour arriver à occuper des espaces vacants ou délaissés en garantissant une certaine pérennité de la vie de ce jardin dans l'espace dans lequel il va s'implanter. Pour faire simple, c'est très épineux pour nous d'arriver à avoir des espaces qui sont directement dédiés par la collectivité ou les collectivités, puisque ça concerne plusieurs villes et villages de la région méditerranéenne, mais c'est compliqué d'avoir des espaces dédiés vraiment pour développer des projets de jardin. Alors l'expérience du Jardin des Ors, bon, moi ça fait 5 ans que j'y travaille. Auparavant j'aidais déjà à monter des projets de jardin partagés, mais c'est vrai que déjà personnellement moi ça m'a fait quand même du bien de retrouver un lien à la terre et puis de concrètement me confronter aux problématiques locales de qu'est-ce que c'est qu'animer un jardin partagé. C'est vrai qu'il y a quand même dans les débats qui ont eu lieu tout à l'heure, c'est vrai qu'on a pu constater qu'il y avait quand même pas mal de choses à discuter sur comment bien jardiner ensemble. Dans l'entente mutuelle, etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont complexes. Mais le Jardin des Ors, non, c'est un endroit qui est assez plaisant dans le sens où c'est une espèce de bulle verte dans les quartiers nord de Marseille qui fait un peu tampon entre un quartier pavillonnaire qui ont tendance à fortement se développer dans les quartiers nord de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'espace que les promoteurs reprennent pour le vendre à des privés, pour des lotissements, en fait. Donc plutôt des villas et des maisons individuelles. Donc une certaine misère sociale aussi, autant que dans les cités, dans ces lotissements, parce que les gens s'individualisent beaucoup et les gens sont un peu seuls finalement, chacun dans son petit jardin ou dans sa petite villa. Et finalement, on se rend compte que quelque part, le jardin partagé, il peut se développer autant dans des pieds d'immeubles pour des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin que pour des gens qui habitent des lotissements mais qui ont envie de retrouver de la convivialité et des espaces de rencontre dans lesquels ils se sentent impliqués.
Vous risquez des jardins, là. Dans 10 ans, on parlera encore de consolider les postes.
Oui, mais on sera toujours là, donc on y arrive. Quand même.
Mais pour les autres, tu vois, peut-être on sera que seul encore.
Ouais.
Kamed Achar, responsable d'une structure associative d'insertion professionnelle dans les quartiers nord.
Moi, c'est un peu différent parce que j'ai pas... mon métier n'est pas animateur de jardin ou ingénieur en montage de projet, etc. Donc un peu différent. Par contre, je suis très sensibilisé par rapport à la question de la coordination des postes animateurs, parce que l'animateur, il doit s'inscrire dans le temps.
Ouais.
Au moment où tu as un rapport de confiance qui se crée entre les jardiniers, les habitants, etc., tu dois partir et tout recommencer. Ça, c'est compliqué.
C'est vrai, ouais.
Et vraiment, patience, et ne pas céder justement à l'envie de créer à la place des habitants. Là, on casse le projet s'il n'y a pas appropriation par les habitants. Mais malheureusement, si on n'a pas les moyens financiers, quelquefois, on est un peu obligé de le faire parce que les financeurs nous financent à court terme, très court terme. Ils veulent des résultats dans un an, les évaluer objectivement dans un an. Et alors donc, on se dit, si on ne veut pas donner cette impression d'abandon, on va faire à la place d'eux. Et donc, nous, la chance qu'on a eue, c'est quand même de pouvoir compter sur des financeurs qui croyaient au projet et qui me laissaient le temps que je voulais pour arriver à ce résultat-là. Donc, ça a duré pendant 5 ans. On a été financé par le CUX pendant 5 ans sans résultat probant. Et même pire, c'est que les gens autour pensaient que le projet était abandonné. Et une fois que les habitants se sont appropriés l'espace, ont créé eux-mêmes le jardin, là, c'est fini, ça y est. Le jardin est voulu à vitesse grand V. On hallucine. Chaque fois, on a quelqu'un qui passe, qui nous dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin pour qu'il soit aussi beau maintenant. Plus vandalisé, plus rien. Il faut voir aussi que les enfants ont grandi avec. Mmh. Voilà.
Je pense là, que ça fait combien de temps souvent.
Ça fait bientôt 10 ans.
Ouais, voilà. Nous, au Jardin des Ors, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à Tristan qui est l'animateur d'un jardin qui est tout nouveau, qui a 2-3 ans, qui est à la Belle de Mai. Ça s'appelle le Jardin de l'Artichaut,
oui.
L'association L'Artichaut. Et ils se font vandaliser constamment en ce moment. Et je lui disais, tu sais, les jeunes qui viennent, qui ont entre 5 et 10 ans, qui sont sensibles au jardin et qui, avec l'école, viennent dans votre jardin, quand ils vont avoir 14, 15, 16 ans, qu'ils auront les capacités à vandaliser quoi que ce soit, et ben, vous, votre jardin, il aura déjà 10 ans à cette époque-là, et vous pouvez être sûr que ces gamins-là, ils ne viendront pas détruire votre jardin. Parce que le problème qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, avec 2 ans d'existence, c'est que des gamins qui n'ont peut-être pas le droit de prendre le bus encore, mais qui ont 14-15 ans et donc qui ont quand même de l'énergie à revendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vandalisent des endroits dont ils ne se sentent pas acteurs, comme un jardin. Il y a des fois des jardins associatifs, comme il existe depuis peu, et que l'animateur il s'engage avec les maternelles, les primaires, ceux qui sont au collège, qui n'ont rien à faire et qui n'ont même pas le droit d'aller à la plage en prenant le bus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils traînent, et puis à un moment donné, ils se disent « Bon, bah, je vais passer par-dessus la barrière, et puis je vais tout casser parce que je ne sais pas quoi faire. »
Les effets induits de telles démarches dans les cités, etc., c'est surtout mieux vivre ensemble, je le répète. Mmh. Et quand on parle de clôture, l'exemple que tu as donné d'un jardin dont tu t'occupes toi, ça m'a été, j'ai été un peu déçu parce que je me dis, mince alors, on va céder justement à cette envie de, voilà, de tout clôturer, de tout sécuriser.
Non, mais c'est peut-être se dire
surtout qu'à... pas.
Ouais, enfin, ça dépend ouvert. Le contexte.
En obligatoirement. Mmh. Et laisser le temps faire son travail de respect de l'environnement par les habitants, exactement comme peut-être, disait Julien. À un moment donné, ces enfants là qui étaient collégiens étaient plus jeunes, ils ont peut-être participé à l'amélioration de ce jardin en repassant. Même s'il y a un nouveau gamin qui a envie de casser, l'autre va dire attends, laisse ce jardin, c'est le jardin de mes parents, le jardin de l'animateur que je connais bien. Et c'est ça qu'on recherche. Voilà.
Qu'est-ce que c'est pour vous un jardin, une définition comme ça?
Pour moi, un jardin, c'est un espace neutre, normalement, où justement on doit réapprendre à vivre ensemble. C'est très important pour moi qu'il y ait cet espace qui n'a pas été pourri par l'assistanat, par les interventions de l'État, par le saupoudrage financier, de subventions, etc., pour l'achat de la paix sociale n'importe comment par les politiques de la ville, etc. C'est un endroit neutre où les habitants doivent apprendre à travailler ensemble, à se côtoyer, sans aucun intérêt, mis à part l'envie de rencontrer l'autre.
Vous venez d'entendre un reportage réalisé durant la fête annuelle des passeurs de jardins, une association qui s'intéresse aux questions de biodiversité urbaine, aux liens avec les artistes et puis à tous les enjeux soulevés par les jardins partagés en ville. Si vous voulez en savoir plus sur cette structure ou si vous voulez les contacter, vous pouvez visiter leur blog. C'est passeurs de jardins, jardin au pluriel, .canalblog.com.